France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Comment accompagner une crise d'ado? C'est notre thème ce matin, 1000 nuances de crise que nous essaierons de décrypter. Des ados qui vivent une tempête hormonale, qui transforment leur corps et leur cerveau, mais qui vivent également un deuil de l'enfance, une recomposition identitaire, des priorités qui changent, un rapport nouveau aux parents, à l'amitié, des métamorphoses cérébrales, psychologiques, identitaires qui débutent entre 10 et 13 ans. On s'intéressera également à ces ados qui ne font pas de crise. Est-ce d'ailleurs normal de ne pas en faire? Parents, ados, grands-parents, profs, nos experts attendent vos questions et vos témoignages sur la crise d'ado au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000 sur l'appli Radio France et la page Facebook de l'émission. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebéi.
Bonjour docteur Marion Robin.
Bonjour Ali.
Vous êtes pédopsychiatre, docteur en neurosciences sociales, chef de service adjointe au service du département de psychiatrie de l'adolescent et de l'adulte à l'Institut médico-chirurgical Montsouris à Paris et vous publiez chez Odile Jacob les besoins fondamentaux des adolescents. Bonjour professeur Marie-Rose Moreau.
Bonjour Ali.
Vous êtes pédopsychiatre, chef de service de la maison de Solène, maison des adolescents de l'hôpital Cochin et vous publiez avec Anne-Hélène Dubray, Bye Bye l'angoisse, vivre en bonne santé mentale. Et c'est publié chez Casterman. Bonjour professeur Daniel Marcelli.
Bonjour, bonjour.
Un ponte de la pédopsychiatrie. Vous avez été pédopsychiatre à l'hôpital Henri Laborie à Poitiers, créateur notamment des diplômes interuniversitaires médecine et santé de l'adolescence et adolescent difficile. Première question, c'est quoi au fond l'adolescence, professeur Marie-Rose Moreau?
Alors, l'adolescence, c'est... D'abord, c'est une invention, c'est-à-dire on passe de l'enfance à l'âge adulte. On y passe, alors on a une puberté, on a une transformation hormonale, comme vous le disiez tout à l'heure, et une transformation psychique. Mais c'est pas ça qui définit l'adolescence. Ce qui définit l'adolescence, c'est cette période-là, c'est tout ce qui va se passer de transformation, de construction. Il faut que l'enfant qui devient adolescent construise son propre rapport à lui-même, aux autres et au monde. Et ça se fait dans cette période-là. Donc c'est une période incroyablement créative, mais forcément inquiétante. Et alors elle dure, on se demande jusque quand elle dure. Ça dépend quels sont les éléments qu'on va choisir pour définir la fin. Par exemple, si on considère que c'est le fonctionnement cérébral...
La maturation cérébrale.
La maturation cérébrale, c'est plutôt 25 ans. Maintenant, on sait que jusqu'à 25 ans, la maturation cérébrale, en particulier des zones frontales, elle n'est pas faite. Donc, du coup, on pourrait dire jusqu'à 25 ans. Mais après, on peut se sentir ado parce que, par exemple, on est encore en train de chercher sa place. Donc, jusqu'à quel âge? Ça, je pense que c'est un peu subjectif et on peut dire que dans notre société et aujourd'hui, elle est relativement longue.
Professeur Daniel Marcelli, c'est quoi l'adolescence pour vous?
Pour ne pas répéter tout ce que vient de dire Marie-Rose à propos avec lesquels je suis parfaitement d'accord, je dirais que l'adolescence, c'est une longue période d'incertitude et d'indécision. Avec des jeunes qui sont dans des moments de flottement, dans une société dont la caractéristique est d'un côté d'être ouverte, relativement ouverte, et pas les sociétés traditionnelles où chaque génération reproduit ce que faisait la génération d'avant, font les adolescents d'aujourd'hui, de nos générations, de nos sociétés, sont sommés de faire du nouveau. Mais du nouveau, avec cette incertitude, donc, et dans une société qui aujourd'hui est une société particulièrement excitée. Or, nos adolescents ont à l'intérieur de leur corps et de leur tête, du fait de ce que vient de dire Marie-Rose Moreau, la puberté, etc., une forme d'excitation permanente. Et plus un adolescent rencontre de l'excitation extérieure, plus ça risque de déborder. Et c'est précisément ce qu'on peut observer aujourd'hui.
On se demandait quand finissait l'adolescence. tout à l'heure dans l'ascenseur avec Leïla Kadour Boudadi qui a une petite fille de 5-6 ans. On se demandait, mais tiens, est-ce que l'adolescence ne commencerait pas dès peut-être le primaire, dès 7, 8, 9 ans? Et j'ai beaucoup de parents autour de moi qui me disent, tiens, ma fille ou mon fils a des comportements d'ado à 9, 10 ans. Oui. Daniel Marcelli.
Oui, bah, vous savez, dans la société aujourd'hui, comme il n'y a plus de normes éducatives et que chaque enfant, il faut le stimuler, etc., le brevet de bonne parentalité, c'est la précocité du développement. Et donc, les parents n'ont de cesse de prouver que leur enfant est plus précoce que celui du voisin. Ça veut dire qu'ils ont encore mieux fait que le voisin. Donc, on est dans cette espèce de course à l'échalote où plus ça va vite, plus c'est précoce, mieux ça vaut. Donc, et certains parents ou certains jeunes de 6, 7, 8 ans s'habillent presque comme des ados. Et donc, il y a cette espèce de stimulation, y compris au niveau de la mode. Moi, je pense qu'un adolescent, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'adolescence en véritable puberté. Pour être simple, il n'y a pas d'adolescence en poils. Voilà.
Marie-Rose Moreau, avant d'entendre Marion Robin.
Oui, effectivement, c'est une construction sociale, en réalité, l'adolescence. Et bien sûr, il y a la question de la puberté qui est une sorte de porte d'entrée. Mais j'allais dire, ce n'est pas suffisant, parce que dans d'autres sociétés où on considère un peu différemment le passage entre enfant et adulte, ce n'est pas parce qu'on est pubère qu'on est devenu déjà jeune adulte ou adolescent. Donc, c'est ça, c'est exactement ce qui vient d'être décrit, hein, c'est que il y a une sorte de stimulation excessive des enfants, comme si on ne les laissait plus être enfants.
Marion Robin, d'abord votre définition de l'adolescence.
Oui, adolescere, étymologiquement, c'est grandir. Comment élever un enfant jusqu'au statut de l'âge adulte, c'est la question de notre société. Pour prolonger tout ce qu'ont dit mes collègues et voilà, qui définissent vraiment cette période-là, je pense qu'aujourd'hui, il y a eu les développements qui ont été faits sur la crise d'adolescence, il y a eu un amalgame entre la notion de crise et ce moment maturatif. C'est-à-dire adolescere, maturatif, c'est élevé. Il est vraiment question de maturité et la crise d'adolescence est devenue un passage obligé parce que par succès social, on va dire aussi de cette notion-là qui a bien parlé aux parents pendant des années parce que on voit bien que c'est un moment de difficulté. En fait, si on regarde l'étymologie du mot crise qui vient du grec crisis, ça définit un moment décisif dans la vie, c'est-à-dire un moment où des antagonismes se rencontrent. Ça peut être c'est un changement d'état rapide lié à des contraintes. Des antagonismes internes ou externes. Donc, en l'occurrence, pendant la puberté, il y a des contraintes internes qui se présentent à l'enfant et à la famille, aux parents, et qui vont amener à des changements, et notamment une contrainte d'adaptation de tous. Maintenant, le fait qu'on définisse une crise, c'est si jamais cette contrainte d'adaptation n'amène pas à une réponse efficace, et si jamais il y a un débordement du seuil des ressources, de l'environnement et de la personne concernée, que là, on bascule vraiment dans la crise, c'est-à-dire dans le chaos, mais aussi dans la reconfiguration. On sait qu'il y a plein de crises à l'adolescence qui vont amener à des reconfigurations solides derrière.
Marie-Rose Moreau, vous aimez beaucoup cette citation du pédiatre et psychanalyste Donald Winnicott. L'adolescence, c'est une maladie qui passe toujours.
Oui. Alors Winnicott est donc pédiatre et psychanalyste après la Deuxième Guerre mondiale en Angleterre même. Et il avait des très jolies. Il comparait aussi l'adolescence à ce qui se passe lorsqu'on est encalaminé dans une mer et on finit toujours par en sortir. Et effectivement, il y a vraiment cette notion très importante que Marion vient de dire, que c'est une crise maturative. D'ailleurs, tous les adolescents ne font pas une crise au sens de « je m'oppose, je ne suis pas d'accord ». J'aurais même tendance à penser qu'aujourd'hui, avec ces normes éducatives qui changent énormément et cette individualisation très importante de l'éducation, la crise d'adolescence au sens strict, c'est-à-dire je claque des portes, je change mon corps, je me mets contre mes parents, etc. Ça, c'est en train de changer et que c'est quelque chose de plus difficile, moi, je trouve, que l'on voit chez une majorité d'adolescents. C'est plutôt une douleur existentielle, une perte de de sens, et est-ce que j'ai envie de devenir adulte, quel est le sens, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que j'ai envie de quitter cet état de l'enfance si magnifique. Donc moi je trouve que c'est beaucoup plus douloureux aujourd'hui cette crise d'adolescence que comportementale, je m'oppose.
Et certains préfèrent parler de passage plutôt que de crise. Daniel Marcelli.
Oui, j'amènerai une petite modulation dans ce que dit Winnicott, et de dire que le temps, c'est le thérapeute de toute crise d'adolescence, ce qui est vrai. Seulement, c'est vrai pour ceux qui font ce qu'on appelle la crise d'adolescence banale, que cette crise soit comportementale ou qu'elle soit plus, comme l'a dit Marie-Rose Moreau, intériorisée dans une forme de souffrance, d'inquiétude, de doute existentiel, de questionnement de sens. Le sens, aujourd'hui, on en entend toujours parler. Mais la difficulté, c'est de faire le partage entre ces adolescents qui sont dans une situation de crise et quelques adolescents, heureusement c'est moins nombreux, qui vont s'inscrire dans une pathologie qui va les fixer. Et le grand risque, c'est de laisser passer le temps jusqu'à ce que cette fixation pathologique devienne quasi irréversible. Et c'est le métier des pédopsychiatres, c'est de faire la part entre ce qui relève d'une crise d'adolescence qui va passer, même si ces adolescents enquiquinent les parents, car nous ne sommes pas nécessairement du côté des parents, nous sommes du côté du développement, et de repérer les adolescents qui, dans cette crise, ont des signes qui vont les enfermer, les emprisonner dans des difficultés dont ils auront énormément de mal à sortir. Je crois que c'est ça l'enjeu fondamental pour les parents, et cette perception demande pour les parents d'être aidés, parce qu'ils ne sont pas en mesure souvent de pouvoir faire la part des choses entre la crise banale et la crise qui va se figer et devenir pathologique.
Marion Robin.
Oui, quand on entend, comme vous disiez, des parents qui disent « j'ai l'impression d'avoir déjà un adolescent » ou « c'est une crise d'adolescence qui s'annonce », je crois qu'il faut vraiment entendre le discours d'impuissance derrière ça. C'est-à-dire que c'est l'intuition d'un parent qui se dit « là, je suis en difficulté avec les ressources que j'ai ». Et les ressources, il ne faut pas les voir comme quelque chose d'individuel d'une famille, mais les ressources sociétales. Et qu'est-ce qu'on apporte comme ressources aujourd'hui pour que ce passage de la puberté se fasse avec un soutien des familles, un soutien des jeunes. Et aujourd'hui, c'est une vraie question à se poser, comment dans cette ce qui devient là avec l'évolution de la santé des jeunes sur les dernières années, et notamment en post-Covid, comment faire de ce passage-là qui est devenu très difficile, et notamment sur la question du sens, une compréhension sociétale pour répondre à ces ressources-là parentales et individuelles des adolescents.
Professeur Marie-Rose Moreau.
Oui, je crois qu'effectivement, c'est une question fondamentale, ce soutien du passage, cet accompagnement. Alors, des adolescents et des parents. Mais je voulais dire la plupart des souffrances, des maladies mentales des adultes apparaissent avant, apparaissent à l'adolescence. On dit même, la dernière étude que j'avais vue là-dessus, c'est vraiment, même avant 15 ans, il y a déjà une majorité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, pédopsychiatres, nous avons une responsabilité d'adolescents, nous avons une responsabilité de reconnaître ces et de les repérer, de les diagnostiquer,
la bipolarité,
de les soigner.
La schizophrénie qui apparaissent notamment à 14-15 ans.
Mais oui, 75% des pathologies, c'est quasiment, enfin voilà. Donc c'est très très important. Alors moi, j'ai appris progressivement que les meilleurs juges pour... parce que les meilleurs juges, c'est les ados. C'est-à-dire, si on prend au sérieux... D'ailleurs, je crois
les
que...
Pères,
oui, c'est ça. Les ados et leurs pères. P-A-I-R-S. Si on prend au sérieux ce qu'ils nous montrent, leur souffrance, et pas qu'on considère que c'est quelque chose de secondaire, alors... on comprend et on repère cette souffrance qui les dépasse et qui dépasse leurs parents.
Et nous accueillons Isabelle. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
D'où appelez-vous Isabelle? Bonjour.
D'Agen, bonjour.
Quel est votre témoignage Isabelle?
Alors moi j'ai un adolescent qui ne se lave pas.
Ah. D'accord.
Il ne se lave pas.
Il se lave.
Ouais. Et racontez-nous un peu.
C'est un peu embarrassant, mais bon, ben, je pense que je ne suis peut-être pas la seule. Donc, il a 13 ans, il est adorable, enfin, la plupart du temps. Et c'est un combat quotidien pour qu'il prenne sa douche.
Combat qui conduit à des conflits, à des disputes?
Oui. C'est-à-dire que j'écoute même à la porte de la salle de bain pour entendre l'eau couler. Et des fois, il triche, c'est-à-dire qu'il fait couler l'eau, mais puis, Du coup, vu qu'il n'est pas mouillé, il ne s'essuie pas. Donc la serviette n'est pas mouillée. Je ne vérifie pas la plupart du temps. Mais lorsque je vérifie, je me rends compte que...
Est-ce que vous avez...
L'odeur qui sort de sa chambre est bien lui, en fait, et non le chat, parce qu'il dit que c'est le chat.
Isabelle, est-ce que vous avez essayé de comprendre pourquoi votre fils de 13 ans refuse de se laver ?
Alors, j'ai essayé de comprendre, c'est-à-dire que je suis très ouverte, nous parlons de tout, mais pour lui, il se lave.
Professeur Marcelli, est-ce que ce que vit le fils d'Isabelle a un lien avec cette tempête hormonale, cérébrale qui touche les adolescents dès l'âge de 12-13 ans et qui remodèle profondément leur cerveau et leur corps? Est-ce que ça a un lien avec ça ou pas,
professeur Marcelli? Deux niveaux de réponse. Le premier, à répondre à votre demande, effectivement, en début de crise pubertaire, il y a la crise hormonale et avec des décharges d'hormones, testostérone en particulier, et les adolescents entre 11, 12 ans, 13, 14 ans, ils sentent. Ils sentent les hormones, ils puent, entre guillemets. Voilà. Et donc, il y a cette dimension de l'odeur.
C'est une réalité biologique.
C'est une réalité biologique. Aller dans une salle de 5e et 4e, surtout après un cours de gym, vous verrez, ça sent les hormones. Voilà. Ce qu'on dit d'ailleurs, puer alors que ça sent les hormones. Premier point. Le deuxième point qui est différent, c'est que un adolescent de 13, 14 ans, ce qu'ils aiment bien, c'est de trouver le bouton qui déclenche l'excitation des parents. Et en faisant semblant de ne pas se laver, avec sa maman qui est derrière elle, derrière la porte, et qui écoute l'eau couler, et puis qui renifle les vêtements, il n'y a pas de meilleur moyen pour exciter sa mère, c'est-à-dire renforcer quelque chose.
L'énerver.
L'énerver. Moi, j'aime préférer dire exciter parce que c'est dans le psychisme. Oui. L'énerver, c'est dans les nerfs. Oui. Et donc, il n'y a pas de meilleur moyen pour tenir sa maman en laisse, j'ai envie de dire. Donc, la maman, la seule solution, c'est qu'elle arrête, si tu as envie de sentir mauvais, va donc en classe en sentant mauvais, et puis c'est tout.
Professeur Marie-Rose Moreau.
Oui, c'est classique, il faut rassurer Isabelle, c'est classique. C'est classique chez les garçons, tout particulièrement.
Oui, peut-être, oui.
C'est surtout chez les garçons. Mais ça rentre aussi, tout ce que tu as dit est vraiment important. Mais je rajouterais juste un tout petit niveau. Il faut séparer à l'adolescence. Il faut séparer son corps, il faut séparer son psychisme, surtout, de sa maman qu'il doit beaucoup aimer, comme tous les adolescents.
Qui se colle en lui, alors c'est encore pire.
Et oui, mais donc il faut séparer. Donc lui, il a trouvé une stratégie, elle est fréquente, elle est classique, c'est de sentir mauvais et effectivement d'appuyer là où sa maman va réagir.
Marion Robin.
Oui, si j'ai souhaité donner au sous-titre de mon livre le nom d'intelligence des crises, c'est pour essayer de soutenir la part de dans ce que présentent dans les manifestations que présentent les adolescents et les jeunes, la part de stratégie du vivant, c'est-à-dire que ce qui est manifesté, ce qui va poser un moment problème, voire se présenter comme une impasse individuelle ou familiale, va être la manifestation d'un besoin. Et les crises nous révèlent, et nous ont révélé, là, notamment dans une étude récente, les besoins fondamentaux des jeunes. Et les besoins fondamentaux, il faut qu'on les analyse à trois niveaux. Mmh. Au niveau de l'individu, il y a exister par soi-même et prendre sa place, donc ça peut être dans la famille, etc., avec les enjeux, les conflits que ça peut occasionner. Mais il y a aussi, au-dessus de ça, le besoin d'affiliation. Le besoin d'affiliation, c'est le besoin, dans son environnement, de trouver la bonne distance, chaleureuse, affective, le soutien. Et la bonne distance, elle passe aussi par la façon dont on se présente physiquement, par la façon dont on investit son corps auprès des autres. Et puis, au troisième niveau, au-dessus, il y a la contenance, la question du cadre et de la contenance. Et donc, pour pouvoir évaluer une manifestation à l'adolescence, ça me paraît vraiment important de pouvoir, sur une logique écosystémique, être sur trois niveaux. C'est-à-dire le niveau plus global, et c'est la contenance, c'est vraiment la façon dont on pense l'éducation en général. L'affiliation, c'est plus les relations avec les autres, c'est-à-dire trouver la bonne distance, trouver la bonne chaleur, etc. Et puis, l'individuation, c'est la façon dont l'adolescent réalise son destin propre et sa singularité.
Et puis, le fils d'Isabelle peut-être éprouver des difficultés à assister à des changements corporels qui peuvent effrayer. Il ne faut pas négliger cette perte de repères physiques. J'aimerais citer cette analogie de votre confrère Noël Pompuy qui dit « C'est comme si vous aviez l'habitude de conduire une petite voiture et qu'un jour, on vous surclasse dans un SUV. Vous allez mettre 3 heures pour sortir du parking parce que vous ne savez plus où sont les limites. Du jour au lendemain, vous ne maîtrisez absolument plus vos contours, d'où cette perte de repères. C'est peut-être une piste de réflexion, Isabelle. Mmh. J'espère qu'on vous a apporté quelques éclaircissements.
Faut pas qu'elle s'inquiète, hein, ouais, ou, Isabelle. Ça va se calmer.
Oui, vous m'avez apporté des éclaircissements, pas trop de solutions.
Non, mais n'écoutez plus à la porte de la salle de bain et ne reniflez plus les vêtements de votre enfant. Et dites-lui simplement, bah, écoute, si tu veux vraiment aller en classe en sentant très fort, bah, va, pas en disant en sentant mauvais, parce que c'est négatif, mais en sentant très fort, bah, vas-y, tu verras bien quelles sont les réactions des autres.
C'est de ta responsabilité. Hein. Merci beaucoup Isabelle de nous avoir appelé dans quelques instants. On s'intéressera aux émotions souvent puissantes des ados et qui peuvent déborder, parfois en colère. Ce sera juste après avoir écouté Phoenix qui interprète Everything is Everything, un titre sorti en 2004, 10h26 sur Inter. Things are gonna change, not for better. Don't know what it means to me, but it's hopeless, hopeless. Gotta get you home, could be with anyone. I think of what I've done, you know it all. Everything is everything. The more I talk about it, the less I do control. Everything means everything. Can't understand a word. I'm fucked up stubborn saying the things I do possess, sometimes they own me too. What they're gonna do to me? I think it's hopeless, hopeless. What I can't explain, I'm sure you get it well. Since I always wanted, I always wanted you. Everything is everything. The more I talk about it, the less I do control. Everything means everything. Can't understand a word. I put the stuff I'm saying. Phoenix interprétait Everything is Everything.
France Inter.
Il y a des parents d'ados dans la salle ? L'alcool, la drogue, ça va ? Non, vous, votre consommation, à vous, je parle. Hein.
Grand bien vous fasse.
Ça twerk à la maison, vous aussi ? Oui, je m'adresse qu'aux parents d'adolescentes. Parce que alors, les parents de garçons, franchement, vous, c'est quoi vos problèmes ? Il joue aux jeux vidéo, il a des grands pieds. Je vous emmerde.
Allez, Rébéi.
Et ce matin, on s'intéresse aux crises d'adolescents en compagnie des pédopsychiatres Daniel Marcelli, Marie-Rose Moreau et Marion Romain. Et nous accueillons Emma qui nous appelle de Reims. Bonjour Emma.
Bonjour Ali.
Bienvenue. Alors, vous n'êtes plus une ado, vous avez 23 ans, mais vous vouliez témoigner de la crise adolescente que vous avez vécue il n'y a pas si longtemps que ça.
Oui, en fait, moi, j'ai 23 ans aujourd'hui et jusqu'à mes 17 ans, je pensais avoir... éviter cette crise d'adolescence qu'on voit un peu comme une rébellion. Mmh. Et du jour au lendemain, j'ai commencé à faire des grosses crises d'angoisse et j'ai mis du temps avant de savoir que c'était juste un trop-plein d'émotions sur lesquelles je ne pouvais pas mettre de mots. Et je m'en suis rendu compte à peu près 20 ans, donc 3 ans après, et j'ai été suivie ensuite à la maison de Solène, et j'ai l'impression que j'en sors à peine et que je suis encore un peu dedans, voilà.
Ça se traduisait comment ces montagnes russes émotionnelles, Emma ?
C'était juste des crises d'angoisse, du mal à respirer, j'étais au lycée, il y avait aussi le stress du bac, mais des parents, de tout l'environnement, et oui, des crises d'angoisse, comme on pourrait y penser, quoi, respiration.
Et jusque-là, jusqu'à 17 ans, il n'y avait pas eu de crise, au sens tel qu'on le connaît, de la crise d'adolescence.
Rien du tout, tout allait bien, j'étais super enjouée, j'étais du coup contente de ne pas être passée par cette période de rébellion envers mes parents, et tout allait bien au lycée, etc. C'était vraiment du jour au lendemain.
Est-ce que la période du Covid a joué un rôle peut-être dans l'apparition de cette crise d'adolescence tardive ?
Alors le Covid, c'est arrivé l'année de ma terminale, donc ça m'a un peu sauvée parce que j'avais l'impression que mes crises d'angoisse étaient aussi liées au lycée. Et donc ça s'est arrêté en février de l'année de mon bac, et donc ça m'a sauvé un peu.
Marie-Rose, professeur Marie-Rose Moreau, vous êtes la chef de service de la maison de Solène, la maison des adolescents, l'hôpital Cochin.
En tous les cas, c'est très bien décrit par Emma. C'est vraiment, ça peut effectivement arriver. La vulnérabilité de cette période, on a dit que c'était un passage. Donc parfois c'est lorsqu'on rentre, parfois c'est justement lorsqu'on est bien, où la question vraiment de se séparer, de faire les choses par soi-même et de définir ses propres valeurs. C'est à ce moment-là que l'inquiétude arrive. C'est vraiment c'est très profond, c'est très existentiel, et ça demande un travail de reconstruction, en réalité, de trouver la force à l'intérieur de soi et dans le lien aux autres, parce que c'est toujours dans le lien aux autres que cette souffrance apparaît, par rapport à l'école, par rapport aux parents, par rapport au monde. Et donc moi je trouve tous ces adolescents qui traversent ces moments-là très courageux. Et ils le font souvent avec beaucoup de sérieux, beaucoup de profondeur. Mais ça marche. Ça marche.
Professeur Daniel Marcelli, pourquoi les émotions sont-elles si puissantes à cet âge de la vie, et pourquoi les ados sont souvent débordés par tout un tas d'émotions, parfois contradictoires ? Comment ça s'explique ?
Je me permettre, Emma est toujours
là. Oui, elle est toujours là, Emma. Oui.
Est-ce que vous m'autorisez, Emma, à vous poser une question un petit peu personnelle ? J'aurais envie de vous dire, à 17 ans, là, au lycée, est-ce que vous aviez commencé à avoir un petit ami ou quelques émois amoureux qui ont surgi à ce moment-là ?
Non, pas du tout.
Pas du tout, vous n'étiez pas... Ouais. Parce que souvent, dans les premiers émois amoureux, il y a ce déclenche comme ça, des émotions. Alors, en revanche, vous avez l'air d'être, jusqu'à 17 ans, une jeune fille sage et très gentille et très conforme à peut-être ce qu'attendaient vos parents. Et cette pression-là, elle vous mettait une pression émotionnelle qui était en discordance ou en conflit avec ce qui se passait dans votre corps et dans votre tête, où justement... Dans le cerveau d'un jeune de 17 ans, il y a des émotions liées à la crise hormonale, liées à la transformation du corps, liées à toute cette... Pour les jeunes filles, il y a la féminisation du corps, ce qui, dans notre société, reste encore un problème peut-être plus compliqué que pour les garçons. Et cet ensemble de paquets un peu compliqués, l'incertitude sur votre travail, vos orientations, tout ça, ça fait un paquet un peu noir.
Emma ?
Oui, moi je voulais rajouter quelque chose, c'est que aussi, je sais pas si c'est lié, mais j'avais une petite sœur qui à cette époque-là avait à peu près 10 ans, et j'ai eu l'impression un peu du jour au lendemain d'avoir une certaine responsabilité d'aider mes parents et d'avoir un peu le syndrome du grand frère ou de la grande sœur, je sais plus comment ça s'appelle, mais je pense que ça aussi, ça m'a mis une certaine pression.
Docteur Marion Robin.
Oui, pour compléter sur les émotions, là encore un peu d'étymologie. Émotion, c'est ex movere, c'est sortir de soi pour bouger, pour aller où, pour faire quoi. Il faut pouvoir les lire, ces émotions, et les traduire. Chacune des émotions traduit des besoins différents. Et donc, c'est une boussole, c'est vraiment la boussole qui nous permet de nous questionner sur où est-ce que je vais et quel sens je vais mettre dans mon existence. Tout à l'heure, On a parlé du SUV, je vais prendre une autre image pour les besoins fondamentaux, c'est celle du bateau, c'est-à-dire que ce qui est vraiment, ce qui va résumer les besoins fondamentaux des jeunes, c'est l'idée que ils sont sur un bateau, ils montent sur une embarcation, celle de l'existence et du monde adulte. Ils regardent comment est fait ce bateau, est-ce qu'il y a un capitaine, est-ce que voilà qui organise la direction, quelle est la qualité de ce rafio, etc. Et puis après, donc ça c'est la contenance générale. Ensuite, la filiation, c'est qui est l'équipage, comment je vais, quelles sont les ressources de ceux qui sont comme moi sur ce bateau. Et ensuite, l'individuation, c'est moi. Quel est mon rôle propre et comment je vais pagayer, dans quelle direction, etc. Et c'est l'alignement de tout ça qui va donner à un moment un sens. Et en ce moment, et si je reviens sur cette histoire sur la santé des jeunes en post-Covid, c'est pour dire qu'année après année, on observe chez eux, effectivement, la question du sens, comme l'a dit Daniel Marcilli, qui est de plus en plus présente. Pourquoi elle est de plus en plus présente? Parce qu'elle est de plus en plus perdue, cette question du sens. Et aujourd'hui, les jeunes en souffrent beaucoup collectivement. Donc, pour Emma, il y a un niveau d'analyse, voilà, encore une fois, à trois niveaux, de façon écosystémique. Au niveau macro, il y a la question de là, moi, où j'en suis sur le parcours de vie. On voit beaucoup de jeunes qui suivent par une pression scolaire un chemin, parce qu'il y a toujours eu les portes ouvertes, il faut aller dans cette direction-là, ils ont travaillé, mais ils ont perdu le sens d'eux-mêmes parce que c'était pas connecté à leurs propres besoins. Ensuite, au niveau familial, comment les émotions vont traduire le fait que j'ai à reconfigurer ma place dans la famille, et là, elle le dit très bien, voilà, il y avait les besoins de ma sœur, j'ai été mise dans une certaine position, ça m'a changé mes contraintes, mes ressources, etc. Et puis au niveau global, comment est-ce qu'on peut donner du sens aux jeunes? Parce qu'en ce moment, moi je crois que si la société là ne s'arrête pas pour se questionner sur la santé des jeunes, vraiment, il y a les élections qui arrivent bientôt, je pense que les maires de France ont vraiment un fort pouvoir pour pouvoir accompagner les jeunes en perte de sens aujourd'hui, dans le quotidien, par des conseils municipaux, d'associer et les enfants et les adolescents à des conseils municipaux. C'est aussi très pourvoyeur de sens de pouvoir agir sur l'environnement immédiat qu'on peut avoir.
C'est pas pour rien que vous avez écrit, professeur Marie-Rose Moreau, bye bye l'angoisse. Merci hein, Emma, je sais que vous devez filer, merci beaucoup de nous avoir appelé, Marie-Rose Moreau.
Oui, alors bye bye l'angoisse, je l'ai écrit justement avec cette idée que on est dans une période où, dans une société où le poids sur l'individu, sur la personne et sur les jeunes est très fort, moi je les trouve dans une grande solitude, de même que leurs parents, et avec pas assez de liens avec et pas assez de soutien. On les aime pas assez, on n'imagine pas suffisamment qu'ils sont capables de devenir des adultes qui vont changer le monde, justement. Et donc ce livre, Bye Bye l'angoisse, c'était l'idée de donner aussi à chacun une sorte de capacité, justement, à lire ses émotions. Marion a dit traduire. Ben oui, je pense qu'il faut traduire. Les ados, et leurs parents aussi, d'ailleurs, il faut qu'ils arrivent à traduire toutes ces émotions qui sont parfois extrêmement fortes pour en faire quelque chose de bon pour eux et pour le monde.
Professeur Marcelli.
Oui, comme l'a dit Marion, la question du sens est devenue fondamentale et Marie-Rose l'a évoqué, l'individualisme. Le problème aujourd'hui de notre société, c'est que les parents ne cessent de dire à l'adolescent, et la société ne cesse de dire à l'adolescent, trouve ta voie, trouve ton chemin, fais ton projet de vie. Et il n'y a plus, je dirais, de valeur transcendante qui contient la société. C'est à chaque individu de trouver le sens
c'est
de sa vie.
C'est vertigineux.
Ben, c'est exactement le vertige qui atteint tous les adolescents. Mmh. Et un vertige, ça vous donne de l'angoisse, comme l'a dit. Et donc, c'est cet aspect de trouve le sens à ta vie, trouve-le toi-même. Le sens de ta vie, il est à l'intérieur de toi. Mais c'est complètement fou. Le sens de la vie, il est dans une société. Il n'est pas à l'intérieur de chaque individu. Et c'est la pestilence de notre société individualisante. D'autre part, pour les adolescents, pour qu'ils se sentent bien, ils sont dans un paradoxe. Parce que pour se sentir bien, il faut avoir le sentiment d'être compris des autres, que les autres vous comprennent. Ça vous fait du bien d'avoir le sentiment qu'on vous comprend. Et en même temps, l'adolescent, il n'a pas tellement envie que ses parents le comprennent. Il veut ne plus être compris. Donc il flotte entre ces deux choses et il ne sait pas, pour reprendre les propos de Marion, quel est celui qui tient le gouvernail et à qui on peut se fier. Ce qui est très important pour les adolescents, c'est d'avoir des adultes ressources qui ne sont pas nécessairement les parents. Et le rôle des parents, c'est d'accepter ça.
Tiens, un parent au téléphone. Bonjour Marie. Bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour Marie. D'où appelez-vous Marie ?
Alors, j'appelle de Paris.
Alors, quelle est votre réflexion par rapport à notre sujet du jour consacré aux crises d'adolescents ?
Ma réflexion était de me dire que peut-être les parents ont du mal aussi à voir leurs enfants grandir et à accepter d'adapter leurs attentes à l'âge de l'enfant, mmh. à continuer peut-être par certaines réflexions, certaines demandes de les infantiliser mmh. au lieu de leur faire confiance et de les laisser un peu tranquilles en fait.
Vous avez un exemple concret, Marie ?
Alors l'exemple concret auquel j'avais pensé, c'est couvre-toi bien, t'es sûr que tu vas pas avoir froid, alors que en fait normalement on n'a pas envie d'avoir froid quand on va dehors. Donc peut-être que l'enfant sait spontanément comment il doit s'habiller. Et ce genre de petites réflexions qui à force peuvent peut-être provoquer l'enfant dans un désir de s'opposer aux parents.
Très intéressant, Marie-Rose Moreau, vous êtes d'accord avec ça ? Ou pas ? Vous avez le droit.
Pas tout à fait. Alors, je comprends très bien ce que dit Marie, mais je pense que ça ne crée pas de la souffrance. Je pense que, par contre, le fait de se retrouver tout seul, effectivement, de trouver ses propres choses, et puis, moi, je crois qu'il faut, au contraire, que la société et les parents imaginent que cet adolescent peut devenir grand et qui va faire des grandes choses, qui va nous remplacer même, qui va faire mieux que nous, qui va nous remplacer, que nous, on va mourir même. Mmh. Et que je pense qu'il faut que l'on puisse penser ça. Et moi, et les études le montrent, hein, qu'en France, nous avons une vision pessimiste de l'avenir et de la place de nos adolescents. Et ça fait du mal aux adolescents.
Merci beaucoup, Marie, de nous avoir appelé. Tiens, on parle de crise, mais docteur Marion Robin, quels sont les éléments constitutifs d'une crise ? Quels sont les signes d'une crise ? Aidez-nous à décrypter les signaux d'alerte qui peut-être alertent sur un problème de santé mentale. Quelle est, en fait, la frontière entre le normal, la crise normale, et puis le pathologique, c'est-à-dire voilà, les signaux peut-être d'un trouble mental, psychologique, d'une atteinte de la santé mentale.
Bonjour Marion, c'est la plus difficile des questions, alors je vous laisse répondre oui. parce que c'est terrible comme question.
Oui, Marie-Robin, c'est pour vous, parce que c'est quand même l'objet de votre livre « Les besoins fondamentaux des enfants ».
Des adolescents. Et
des adolescents, pardon.
Effectivement, j'essaye de faire dans ce livre une anatomie des crises pour essayer de mettre en crise cette question de crise d'adolescence aussi, et puis pour voilà, la questionner en tant que construction sociale et aussi questionner notre organisation collective pour répondre à ce moment de la vie. Moi, j'ai travaillé dans une unité de crise pendant 15 ans et justement, en partant des situations les plus sévères, j'ai, avec mes collègues, nombreux mobilisés sur cette mission-là forte de lutter contre les enjeux de vie ou de mort et de faire basculer la crise du côté de l'opportunité, parce que la crise, c'est deux notions en une, et notamment les idéogrammes chinois en témoignent, c'est-à-dire que c'est à la fois la menace sur la vie, mais c'est aussi l'opportunité, c'est-à-dire la capacité à dégager de cette menace quelque chose de constructif. Et donc,
qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pathologique en termes de crise, docteur Robin ?
Alors, il peut y avoir un peu tous les signes dans une crise. C'est-à-dire que tous les signes psychiques peuvent être l'objet d'une crise. Ce n'est pas tant la spécificité des symptômes que, d'une part, leur intensité. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la question d'un moment décisif. La crise, c'est un moment où il y a une accélération. Il peut y avoir, par exemple, un conflit dans la vie qui dure indéfiniment. C'est pas une crise en soi, un conflit. Ce qui va faire crise, c'est le fait qu'il y a des antagonismes qui, à un moment, arrivent à ce moment décisif et qui va faire qu'il y a une bascule. Alors, à ce moment-là, les adolescents et leurs familles ne voient plus qu'une ou deux ou trois trajectoires qui sont souvent, effectivement, catastrophistes. Pourquoi ? Parce qu'ils voient bien que les ressources sont débordées. C'est ça qui fait la définition de la crise. C'est que les ressources sont débordées et qu'on passe le seuil de la bascule et qu'après, bah, c'est un peu plus le chaos, mais c'est aussi parfois l'occasion d'une reconfiguration vraiment de la famille ou de l'individu, de l'intrapsychique, etc. Mais donc, ça peut être un peu tous les signes, mais par contre, c'est une intensité importante sur un temps court. Et
c'est la fréquence aussi, par exemple, s'il y a des colères très, très intenses, très, très fortes, quasiment tous les jours, on est dans le normal ou dans le pathologique ? Prenons ce cas de la colère, des colères, mais vraiment très fortes, avec parfois des menaces physiques, pourquoi pas. C'est un signe qui doit alerter.
Oui, c'est ça. Oui, vous parlez de l'intensité et de la fréquence, effectivement. C'est un moment, la famille et l'individu, le seuil est débordé, et là, il y a un appel aux ressources extérieures qui vont définir le fait qu'effectivement, on est dans une situation de crise. Mais aujourd'hui, si la situation des adolescents est aussi fréquemment du côté de la crise, il faut qu'on voit mais quelles sont les ressources, donc, et la situation d'ailleurs des individus, parce que pas plus tard que dans les informations tout à l'heure, il y avait la crise de gouvernance. La crise, c'est un mot mots qu'on entend partout. Ouais. Pourquoi ? Parce que les ressources qui permettent de les surmonter d'habitude sont appauvries.
Daniel Marcelli.
Je vais dire quelque chose de très simple aux parents. Il faut s'inquiéter quand ça dure, quand ça se répète et quand ça diffuse dans tous les secteurs. Par exemple, des crises de colère. Quand c'est des crises de colère uniquement avec les parents, mais qu'en classe, au lycée ou avec les copains, ça se passe bien, ben ça veut dire qu'il y a une tension entre les parents. Voilà. Par exemple, le garçon tout à l'heure de 13 ans qui refusait de se laver, si en revanche il est bien en classe, il travaille bien, il a des activités sportives, etc., il n'y a pas de souci. Donc quand ça dure, précisément à la crise, comme l'a dit Marion, c'est temporaire, donc la durée est 6 mois, quand ça se répète et quand ça diffuse dans tous les secteurs et les 4 secteurs de la vie de l'adolescent, c'est avec ses parents, c'est en classe bien entendu, c'est avec les copains et c'est dans les activités des passions, dans les passions. Je le dis souvent, quand un adolescent a une passion, c'est un trésor développemental. Faites attention, parents, de ne pas saboter la passion de votre adolescent. Il faut essayer de la contrôler, de la canaliser, mais surtout pas de lui interdire d'exercer sa passion.
Professeur Marie-Rose Moreau.
Oui, alors... Nous, on vient d'ouvrir à la Maison de Solène un centre de crise qui s'appelle Weiji. Weiji, ça veut dire en mandarin la crise qui transforme.
Weiji.
Ouais. W-E-I-J-I. Et ce que moi, j'apprends dans ce centre, avec les familles, je suis tout à fait d'accord avec les différentes caractéristiques, même si c'est un exercice difficile, hein, mais je suis fait d'accord sur, et en particulier aussi sur la durabilité.
Voilà. Ça signifie qu'il faut avoir de temps pour juger les choses.
Et sur tous les secteurs. Mais alors, moi, j'en rajouterais un quand même, encore, s'il faut bien avoir une grille de lecture. C'est la souffrance. C'est que l'adolescent, il souffre de ça.
Et les conduites à risque qui peuvent accompagner souffrance aussi.
Bien sûr, mais ça va s'exprimer. Mmh. Mais c'est justement, ça va s'exprimer par des conduites à risque. Et donc, la souffrance, mais la souffrance, c'est pas toujours une souffrance, c'est parfois une souffrance, beaucoup d'excitation, beaucoup d'émotions et tout ça, mais c'est aussi parfois le néant. J'ai plus d'émotions, j'ai plus d'élan vital. Mais ça, c'est une souffrance. Ils le vivent comme une...
C'est ce qu'on appelle l'alexithymie.
C'est beaucoup plus que ça. C'est que
l'alexithymie... Une sorte d'abrasion.
C'est un effacement. Ouais. C'est une sorte de j'ai rien à l'intérieur. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je fais quand je ressens ça? Je fais, par exemple, je m'automutile. Je prends des risques. Ouais. Je me scarifie, je prends des risques. Je stimule l'autre, je fais en sorte que l'autre s'énerve autour de moi. Donc je pense qu'il faut... Voilà, le baromètre, c'est ça, c'est la souffrance. Est-ce que je souffre? Et puis mon entourage souffre, les parents souffrent, hein, en général ça va avec. Donc du coup, c'est ça, c'est ça qu'on doit aller chercher. C'est ça notre métier. Hein,
j'admire un mot de ce que vient de dire Marie-Rose, avec lequel je suis d'accord, c'est cette espèce de dimension de dévitalisation.
Ah oui.
Quand un adolescent se sent vide, sans rien, et il va tenter de se remplir avec des actes souvent dangereux ou difficiles, etc. Et cette dévitalisation interne, psychique, c'est vraiment risque majeur pour les adolescents, parce que là, ça ne va pas s'arranger tout seul.
Allez, on continue à évoquer la fameuse crise d'ado. Vous pouvez nous appeler et témoigner au 01 45 24 7000. On écoute Camille Yembe, Je ne l'ai jamais dit à personne, 10h49 sur Inter.
Je ne l'ai jamais, jamais dit à personne. Qu'en sortant de l'école, je voulais pas revoir la maison. Un nouveau problème, un nouveau petit démon s'installe à son tour dans l'appart, dans le salon. Non, je ne l'ai jamais, jamais dit à personne. Je volais des euros dans la voiture de mon daron. Personne. Qu'à 16 ans à peine, je passe de temps en toi. virage en virage, drôle de vie incertaine. Vol à l'étalage pour une belle paire d'Adidas, ça fait beaucoup trop de semaines. Qu'un nœud dans l'œsophage, jouer l'entourage, je crois que j'avais perdu la tête. Jamais, jamais dit, je l'avais jamais, jamais. Non, je ne l'ai jamais, jamais dit à personne. Que c'est pour lui plaire que maman oublie mon prénom. Donc je me tais, j'efface toutes mes questions.
Camille Mbé, interprétée Je ne l'ai jamais dit à personne.
Grand bien vous fasse.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Et ce matin, on s'intéresse aux crises d'ado en compagnie des pédopsychiatres Daniel Marcelli, Marie-Rose Moreau et Marion Robin. Beaucoup de questions qui vont dans le même sens. Pourquoi, au sein d'une même fratrie, certains font de grandes crises à l'adolescence et d'autres aucune, alors qu'ils ont reçu peu ou prou la même éducation ? Daniel Marcelli, en quelques mots.
Contrairement à ce que voudraient les parents en disant on a élevé nos enfants exactement pareil, il n'y a aucun enfant identique dans une fratrie de 3, 4, 5 enfants. Entre le premier et le dernier, celui qui est au milieu. D'abord, il y a des rapports entre les adolescents, les enfants eux-mêmes dans la fratrie qui les changent. Et ensuite, les parents ne sont pas les mêmes selon le moment de naissance de leur enfant. On n'est pas le même quand on a le premier enfant, quand on a le quatrième. Il y a des moments de crise aussi de chez les parents qui expliquent que parfois, ça peut se passer mal. Et ensuite, il y a les traits personnels. Certains enfants sont faciles à élever, d'autres sont plus compliqués à élever. Tout ça fait un mélange que dans une fratrie, il peut y avoir un enfant difficile qui focalise d'ailleurs les parents et qui fait que les autres sont libérés de cette focalisation d'une certaine manière parfois, tout en souffrant.
Et nous accueillons Luc. Bonjour Luc, vous appelez de Mulhouse.
Oui, oui, c'est bien ça, vous m'entendez ?
Oui, on vous entend très bien Luc, bienvenue.
Merci à vous.
Ben oui, vous êtes sur l'antenne de France Inter. Vous êtes adolescent, c'est ça ?
Oui, c'est ça, j'ai 22 ans.
22 ans, d'accord. Et quel est votre témoignage par rapport à votre adolescence et par rapport aux crises d'ado ?
Je pense qu'en tant qu'adolescent, on se pose tous comme question, où va le monde ?
Mm-hmm.
Et il n'y a pas vraiment de réponse à ça. C'est à chacun et à chacune de chercher sa réponse.
Mm-hmm.
Et dans un monde où tout va vite, on a l'impression que tout va mal. Mmh. On a l'impression qu'il faut avoir une réponse vite.
Mmh.
Et j'en avais parlé avec ma mère avant, où j'avais une question, comment se rappeler que cette crise-là est passable, qu'elle va passer. Et en fait, il faut du temps. Mmh. C'est ça qui est paradoxal.
Et qu'est-ce que ça crée chez vous, cette incertitude dont vous parlez là ? C'est quoi ? C'est de l'angoisse ? C'est de l'impuissance ? Qu'est-ce que vous ressentez justement ?
De l'angoisse, beaucoup.
Mm-hmm.
De l'impuissance.
Mm.
Et une tension inouïe. Mais cette tension, elle peut être féconde. C'est-à-dire que ça va m'amener à changer, à être une meilleure version de moi-même chaque jour.
Mm-hmm.
Et aller de l'avant.
Alors, vous nous avez dit au standard que vous aviez un suivi thérapeutique, c'est ça ?
Oui, c'est ça, oui.
D'accord. Et est-ce que vous allez mieux, justement ? Est-ce que ce suivi thérapeutique vous aide à traverser ce passage agité de l'adolescence ?
Ah oui, clairement. Mm. C'est heureusement qu'ils sont là pour moi, en fait, qu'ils m'accompagnent. Parce que sans eux, je ne sais pas ce que j'aurais fait.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Luc. Et tiens, Elodie nous dit, je suis maman de deux ex-adolescentes. Je pense qu'il est important de dire à nos ados que tout commence et tout se termine et qu'ils ne vivront pas cette turbulence toute leur vie. Merci, Luc, de nous avoir appelé. Et nous accueillons Fabienne. Bonjour, Fabienne. Bienvenue.
Bonjour à toute l'équipe. Merci beaucoup.
D'où appelez-vous, Fabienne ?
J'appelle du Morbihan.
Alors, quel est votre
soleil radieux ?
À Paris aussi, c'est du côté de la maison de la radio. Quel est votre témoignage, Fabienne ?
Moi, je voulais surtout apporter une lueur d'espoir pour les parents dont les enfants traversent une période d'adolescence très, très difficile. C'est ce que j'ai vécu avec ma fille. Ça a été vraiment très violent. J'ai eu très peur. J'ai eu... J'ai été obligée de la faire placer parce que je m'en sortais pas.
Ça se traduisait comment, Fabienne?
Ça se traduisait par un refus d'obtempérer, surtout de la violence, de la provocation. Elle se mettait en danger aussi avec un compagnon qui était extrêmement violent avec elle. Donc elle rentrait avec une arcade ouverte, les côtes fêlées. Enfin voilà, c'était très très violent. Et j'arrivais pas à m'en sortir toute seule. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est qu'aujourd'hui, c'est une jeune femme de 25 ans qui est absolument merveilleuse. Pardon.
Non, on vous écoute et on comprend vos émotions, Fabienne.
Elle a repris ses études, elle passe le bac cette année. Elle est merveilleuse, voilà, elle est généreuse, elle est attentive, elle est pleine de vie, c'est un vrai rayon de soleil pour tous ceux qu'elle rencontre. Et c'est ça surtout que je voulais dire aux parents, c'est que, ok, ça peut être dur, c'est un tunnel dont on voit jamais le bout, mais il y a un bout. Et voilà, je voulais encourager tous ces parents qui souffrent, qui ont peur, qui dorment plus. Et puis surtout, moi j'ai rencontré à cette époque-là, où c'était très dur avec ma fille, une jeune femme, enfin non pas une jeune femme, une maman qui avait traversé ça avec son fils, et qui m'avait dit, surtout Fabienne, quoi qu'il arrive, ne coupe jamais le lien. Et ça nous a sauvés, je crois. Bah, voilà, et aujourd'hui, on est super proches et on se régale et on rigole et on est complices.
Et on l'entend, Et c'est absolument formidable votre témoignage, Marie-Rose Moreau.
Alors, je crois que le conseil de ne jamais couper le lien avec son ado, quoi qu'il arrive, de justement voir où sont les ressources possibles, de voir les compétences, de voir les possibles, je crois que ça, c'est essentiel. Pour les parents, mais aussi pour nous, les professionnels.
Un mot de conclusion, Marion Robin.
Oui, à propos de ne pas couper le lien, il faut pouvoir à la fois maintenir un lien et maintenir une qualité du lien. C'est-à-dire un lien aussi en chair et en os, un lien de chaleur, un lien de soutien.
Le paradoxe aussi, c'est que cette maman a dit que sa fille avait été placée. C'est-à-dire qu'elle a accepté aussi une séparation temporaire sans couper les liens. C'est le paradoxe de l'adolescent. À la fois, il ne faut pas couper les liens, mais quand les liens deviennent tellement tumultueux et tellement violents, qu'il est nécessaire d'introduire une distance entre l'adolescent et les parents. Donc c'est ce chemin étroit que chaque famille doit arriver à trouver, souvent avec l'aide de professionnels.
Et le mot de la fin, c'est pour vous, Fabienne.
Eh ben merci, ça m'a beaucoup touchée cette émission. J'avais pas prévu de l'écouter, mais je suis allée jusqu'au bout parce que ça, voilà, c'est un sujet qui me bouleverse. Et petit clin d'œil sur une remarque précédente, j'ai un fils aussi qui a pas du tout fait de crise d'adolescence. Mais alors pas du tout.
Merci voilà. Fabienne pour votre très beau témoignage. Merci beaucoup. Message d'espoir en cette fin d'émission. Merci à vous tous. Hein. Merci professeur Daniel Marcelli. Merci Marie-Rose Moreau. Bye bye l'angoisse. C'est publié chez Casterman. Merci docteur Marion Robin. Les besoins fondamentaux des adolescents. C'est publié chez Odile Jacob. Tous les épisodes de Grand Main Vous Fasse sont à podcaster sur l'appli Radio France. Bonjour Leïla Kaddour-Boudadi.
Bonjour Ali Rezaei.
Je vous ai cité tout à l'heure, hein. J'ai cité ce que vous me disiez sur votre fille de 5-6 ans qui peut-être faisait une crise de préadolescence.
J'espère pas.
Non, pas
merci
pour l'instant.
Merci pour les conseils en tout cas, Ali Rezaei. Tout à l'heure, nos invités seront Samy Bouajila et Mamadou Sidibé pour parler d'une super série, Un Prophète.
Ah, ça a l'air pas mal. Ouais. J'avais adoré le film, Et j'imagine que la série est à la hauteur. Merci. Et demain, on se demande avec Femmes Actuelles pourquoi les femmes sont moins bien soignées que les hommes dans notre pays.